Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand une maladie s'éteint grâce au traitement et au vaccin, les hépatites B et C touchent de moins en moins de Français. Et les autorités sanitaires misent désormais sur leur élimination progressive dans notre pays. Le détail dès le début de ce journal. 42 milliards d'euros pour ne plus dépendre de l'Asie. La Commission européenne lance aujourd'hui son plan pour les semi-conducteurs en pleine pénurie mondiale. Nous serons à Bruxelles. Au sommaire aussi, la quête des parrainages pour la présidentielle. Philippe Poutou n'est pas sûr d'y arriver. 10 mois de captivité pour Olivier Dubois, seul otage français dans le monde. Et le tout premier skieur du Nigeria au JO d'hiver, il est né en Haute-Savoie.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, à 7h50, c'est aujourd'hui la politologue Chloé Morin.
France Inter.
Les hépatites B et C feront-elles bientôt partie, Alexis, du passé en France?
Plus de 100 000 Français sont encore chaque année diagnostiqués positifs à chacune de ces deux infections virales qui s'attaquent au foie. Mais cela baisse nettement d'année en année et les autorités sanitaires sont désormais très optimistes. Ces virus sont en bonne voie d'élimination selon le dernier bulletin de Santé publique France. Et cela un demi-siècle seulement après la découverte de l'hépatite C qui se transmet par voie sexuelle et sanguine. Trois mots-clés pour y arriver à Norenstein. Dépistage, traitement, vaccin.
Contre l'hépatite C, les médicaments antiviraux font depuis plusieurs années la preuve de leur efficacité, à condition de dépister efficacement les porteurs du virus, insiste le professeur François Dabis, le président du comité de la stratégie nationale de santé sexuelle.
Chaque fois qu'on dépiste une nouvelle personne, on guérit définitivement cette personne dans l'immense majorité des cas. Et guérir, ça veut dire qu'on va vraiment tarir le réservoir à un point tel que la disparition quasi complète de ce virus dans la population française c'est quelque chose qui est envisagé. Ce ne sera pas zéro, bien évidemment, mais ce sera très très proche de zéro.
Pour éliminer l'hépatite B, c'est un peu plus complexe, car il n'existe pas de traitement. Seulement un vaccin, désormais obligatoire pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018.
Les efforts de vaccination vont porter sur du plus long terme. Et puis en même temps, on a quand même un stock, il faut bien l'appeler comme ça, de personnes qui vivent avec l'hépatite B chronique, pour lesquelles on a besoin de faire du dépistage pour arriver à les identifier et les prendre en charge correctement.
Et ainsi, normalement, briser la chaîne de contamination. On estime que 23 500 personnes seraient actuellement atteintes du virus de l'hépatite B sans le savoir.
Vers la fin progressive des hépatites B et C en France, dossier signé à Norenstein. Deux fois moins de contaminations quotidiennes hier qu'il y a une semaine. La décrue de la cinquième vague de Covid se poursuit nettement, même si le nombre d'hospitalisations continue, lui, d'augmenter. Le ministère de l'Éducation nationale planche sur un allègement du protocole à l'école pour la rentrée des vacances. Les élèves pourront-ils retirer le masque, au moins dans la cour? Faut-il maintenir trois autotests après un cas positif dans la classe? Concertation aujourd'hui avec les syndicats enseignants.
Il est 7h33, quelle solution face à la pénurie de semi-conducteurs?
C'est l'un des handicaps majeurs de l'économie mondiale ces derniers mois, particulièrement pour l'industrie automobile en Europe. Le vieux continent bien trop dépendant de l'Asie pour se fournir en puces électroniques. Alors Bruxelles doit annoncer aujourd'hui un grand plan de reconquête, 42 milliards d'euros d'investissement public pour rendre l'UE plus autonome dans ce secteur stratégique, fabriquer davantage sur le vieux continent et doubler la part de marché européenne. C'est un tournant majeur, selon Thierry Breton, commissaire en charge du marché intérieur. Il en a parlé à Angélique Boin.
12 milliards d'euros seront investis dans la recherche, selon Thierry Breton, et la Commission devrait autoriser la distribution de 30 autres milliards d'aides publiques pour faciliter l'implantation de méga-usines en Europe. Et cela, même si elles appartiennent à des firmes étrangères, comme l'américain Intel, leader du marché, qui veut investir en Europe. Mais cela ne sera pas sans contrepartie. En pleine crise du Covid, les Américains avaient bloqué l'exportation de composants de vaccins fabriqués sur leur sol dans des usines européennes. Leur législation l'autorise. En cas de pénurie ou de crise, on aura le même type de mécanisme, affirme le commissaire Breton, une politique européenne plus interventionniste, totalement assumée.
Il faut effectivement ne plus être naïf, il faut aussi savoir exercer des rapports de force. On continue à être ouvert, mais on est ouvert à nos conditions. On met des conditions de cette ouverture. On n'est pas ouvert aux quatre vents. Parce que aussi, on veut protéger nos concitoyens, on veut protéger nos emplois et on veut aussi être exportateur net.
Un règlement qu'il faudra encore faire valider par le Parlement et par les États membres, dont certains, rappelons-le, sont allergiques au protectionnisme et aux aides d'État. Mais le commissaire français, qui a dû batailler d'ailleurs en interne à la Commission pour imposer ses vues, se dit confiant. Avec les Britanniques à bord, en revanche, souffle-t-il, on n'aurait même pas pu l'imaginer. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Dialogue utile ou dialogue de sourds? Après 5 longues heures de discussion au Kremlin, difficile de savoir si la rencontre Poutine-Macron a porté ses fruits sur l'Ukraine. Le président russe se dit prêt à des compromis, tout en s'en prenant une nouvelle fois à l'OTAN. Son homologue français propose des garanties de sécurité pour toutes les parties. C'est ce qu'il va dire aussi aujourd'hui à Kiev, où il doit s'entretenir avec le président Zelensky, avant une dernière étape à Berlin avec Olaf Scholz, le chancelier allemand tout juste de retour de Washington, où il a tenté cette nuit d'afficher son entente sur ce dossier ukrainien avec Joe Biden, malgré un contentieux persistant autour du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Loïc Loury est aux États-Unis.
Les sanctions les plus lourdes jamais imposées, voilà à quoi s'expose la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, selon Joe Biden. À entendre le président américain, le Nord Stream 2 en particulier serait mis hors service si ce scénario venait à se produire. Si la Russie envahit, cela veut dire des chars, des troupes qui traversent la frontière de l'Ukraine. Alors il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin. Joe Biden, toutefois, ne dit pas comment et surtout ne semble pas être sur la même longueur d'onde qu'Olaf Scholz, présent hier à ses côtés, et beaucoup plus vague face aux questions des journalistes quant au sort à réserver au Nord Stream. Nous serons unis, nous agirons ensemble, nous prendrons les mesures nécessaires et ces mesures seront prises par nous tous, ensemble. Un contentieux de longue date entre Berlin et Washington. Les premiers voient le projet de gazoduc comme une source d'approvisionnement cruciale. Les seconds comme un levier énergétique et stratégique trop important au bénéfice du Kremlin. Des divergences qui agacent fortement à la Maison-Blanche.
Loïc Gloria à New York. Il nous faut au moins 1800 policiers supplémentaires. L'appel à l'aide du maire d'Ottawa au Canada face à ce qu'il qualifie d'état de siège. Des centaines de camionneurs bloquent toujours le centre-ville de la capitale fédérale pour protester contre les restrictions sanitaires. La justice leur ordonne ce matin de cesser de klaxonner jour et nuit. Nous serons sur place dans le journal de 8h. À 2 mois de la présidentielle, où en est-on dans la course au parrainage? Le Conseil constitutionnel doit faire un nouveau point aujourd'hui. Pas encore candidat, Emmanuel Macron a déjà décroché ses 500 signatures. Au dernier pointage, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo étaient aussi bien partis. Mais parmi les petits candidats, le représentant du NPA, Philippe Poutou, est lui très inquiet. Sa troisième candidature n'est pas acquise, Laurence Perron.
54 signatures d'élus déposées au Conseil constitutionnel, 250 officiellement recueillies et 1400 maires qui hésitent encore à parrainer le candidat du NPA.
Mais là, plus on approche de la date limite, plus c'est le stress.
Philippe Poutou, joint par Yael Gauze.
Mais c'est terrible parce qu'en fait, ça fait 8 mois à peu près qu'on fait ce boulot-là et puis on sait qu'on peut passer à côté, on sait qu'on peut se planter. Et encore une fois, on est légitime et utile au débat politique.
Utile au débat, on se souvient en tout cas de celui d'avril 2017.
Une campagne super, Fillon. Voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, la triche. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, il y a quand même un petit problème de ce côté-là.
Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Paradoxalement, moins la candidature dissidente d'Anas Kazib, de Révolution Permanente, que celle de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste.
En fait, la grosse concurrence, c'est la présence du PC. On avait pas mal de sympathisants PC qui nous parrainaient et qui nous parrainent plus. Logique, ils ont un candidat, on va dire. Mais c'est surtout la répercussion sur Mélenchon. Et on a des équipes FI qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui vont aussi rencontrer les maires que nous on rencontrait habituellement sans qu'ils soient là et donc il y a une pression supplémentaire.
Il reste moins d'un mois pour recueillir les précieux parrainages. Clap de fin le 4 mars.
Cela fait ce matin 10 mois, jour pour jour, qu'Olivier Dubois est otage au Mali. Le journaliste français de 47 ans, enlevé en avril 2021 dans le nord du pays par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Depuis, Nathanaël Charbonnier, ses proches se battent pour qu'on ne l'oublie pas.
Tous les 8 de chaque mois, son nom revient dans l'actualité et sa photo réapparaît dans certains journaux avec un objectif pour ses proches, tout faire pour qu'Olivier Dubois ne tombe pas dans l'oubli. Parallèlement, ces derniers ont lancé début janvier une pétition. Une mobilisation qui ne faiblit pas mais qui semble se heurter au silence des autorités, silence revendiqué notamment par le ministre français des Affaires étrangères. Une mobilisation qui doit aussi tenir compte de la détérioration des relations entre la France et le Mali depuis quelques semaines, même si pour l'heure, ses proches et la mère de ses deux enfants, Déborah, veulent croire que les deux gouvernements travaillent main dans la main.
Aujourd'hui, la France et le Mali continuent de m'assurer qu'une de leurs préoccupations principales, c'est qu'Olivier retrouve son foyer. Le désaccord n'affectera pas cette volonté, ils sont très fermes sur ce point. Mais dans tous les cas, c'est soit la France, soit le Mali, ou soit la France et le Mali. qui auront la solution pour Olivier, donc je leur fais confiance.
Une confiance renforcée pour les proches d'Olivier Dubois par le fait que le groupe djihadiste qui le détient sera ouvert à la discussion. En attendant, ce 8 février devrait une nouvelle fois mobiliser autour du hashtag créé il y a maintenant 8 mois, celui de Free Olivier Dubois.
Nathanaël Charbonnier.
Et une quatrième médaille pour la France au JO de Pékin.
Et elle est encore en argent, décidément. On la doit à Tess Le Deux, la spécialiste du ski freestyle sur l'épreuve du Big Air. Déception en revanche pour Alexis Pinturo, passé complètement à côté lors du Super G. À suivre aujourd'hui du ski de fond, avec parmi les concurrents, le tout premier représentant du Nigeria à skier au jeu, Samuel Ikpefan, 30 ans, natif d'Annemasse en Haute-Savoie. Il a dû batailler pour en arriver là, Arnaud Rozac.
Tu n'as pas le niveau. À l'approche de la vingtaine, le couperet tombe pour Samuel Ikpefan. Il est aux portes de l'équipe de France, mais ses entraîneurs préfèrent l'écarter. Le skieur fait une pause, il revient à la compétition 3 ans plus tard, avec une idée en tête, défendre les couleurs de ses ancêtres. Son père est nigérian et il y a moins de concurrence là-bas. Par chance, une fédération de ski se trouve au Nigeria. Reste qu'il faut en convaincre ses membres. C'est ce qu'il fait en 2018. Samuel Ikpefan débarque avec son matériel et dans le stade d'Abuja, la capitale nigériane, il fait une démonstration avec ses ski rollers sous 39 degrés. L'événement est même diffusé à la télé. Il enchaîne ensuite les grandes compétitions, Coupe du Monde, Championnat du Monde et désormais les Jeux Olympiques, où Samuel Ikpefan est devenu le porte-drapeau d'un pays sans neige.
Portrait signé Arnaud Rozac, à suivre aussi dans la matinée à Pékin du biathlon individuel sur 20 km avec 4 Français en lice, dont Quentin Fillon-Maillet. C'est à partir de 9h30.
Merci Alexis Morel. L'édito politique est à suivre.